Bonjour à tous, Lionel Pierrot pour le Forum des Jeunes sur Fadjet et puis RCF Jéricho. Le diocèse de Nancy-Toul a organisé cet été un voyage en Espagne, à Avila puis à Madrid, à l'occasion des 26e JMJ, les Journées Mondiales de la Jeunesse. Trois participants à ce voyage sont avec nous dans le studio pour nous raconter ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils allaient chercher là-bas et ce qu'ils y ont trouvé. De retour des JMJ, c'est donc le thème de cette deuxième émission de l'année. Les trois participants vont se présenter. Bonjour.
Bonjour, je m'appelle Juliette, j'ai 17 ans et je suis en terminale S au lycée Jacques Callot.
Bonjour, je m'appelle Clément Lalouche, je suis en première S à la Malgrange et j'ai 16 ans.
Moi c'est Jean-Baptiste Mériot, j'ai 18 ans et je suis en terminale S à la Malgrange.
Très bien, alors tout d'abord merci de vous installer à notre micro pour témoigner, pour nous raconter ce que vous avez vécu là-bas. On va peut-être commencer ce discours, cet échange par comment s'est déroulé ce voyage et ce séjour, peut-être par le tout début.
Alors nous sommes partis. Avant de partir pour Avila, nous avons fait une messe à la cathédrale de Nancy. Ensuite, nous sommes partis donc pour Avila.
On avait pris le bus.
Le bus.
Ouais, ouais. Juliette, peut-être tu peux nous raconter quelle était l'ambiance à ce moment-là. Vous étiez nombreux, combien il y avait de bus, à quelle heure vous êtes partis?
Alors, on était 309 à partir de Nancy. Il y avait 6 bus. Et puis, on est parti le soir après la messe et après avoir partagé un repas tous ensemble. Donc, il devait être 20h, il me semble.
Donc, vous étiez prêt pour une longue nuit dans le bus.
Oui.
Au niveau du déroulement de ce séjour, bon, j'imagine que toutes les journées n'étaient pas les mêmes, mais est-ce que vous pourriez, je pose la question à Clément, décrire en quelque sorte une journée type avec les activités sur place qui vous étaient prévues, qui étaient organisées?
Bah, donc, tous les jours, on se levait tôt le matin, donc environ à 7h30, on prenait le petit déjeuner qui était un peu... Enfin, léger pour la journée. Donc après, on allait donc dans une église d'Avila. Donc on changeait tous les jours. On avait une petite présentation du prêtre de cette église. Après, on avait les laudes et une catéchèse, donc présidée ou par l'évêque ou par un prêtre de l'église, traduit par quelqu'un.
Et traduit de l'espagnol
au français,
à notre langue.
Ouais. Mmh. Et donc voilà. Après, donc on était à l'horaire espagnol. Donc à 2h, on allait dans un gymnase à Avila. Mmh. Donc on mangeait tous ensemble dans un gymnase où tous les Français, il y avait des Canadiens, des Anglais. On se réunissait dans ce gymnase, on mangeait. Et après l'après-midi, on avait des activités, soit des jeux, des jeux de piste.
Oui.
Visites aussi.
Ouais. Alors le gymnase, c'était votre lieu de séjour
On avait deux gymnases, un pour dormir et un autre plus près de la ville pour manger, donc midi et soir.
Je pose la question parce que sur des photos que vous avez ramenées, on a vu effectivement les installations, le bivouac, le campement dans un gymnase où on voyait des rangées de nattes sur lesquelles vous avez dormi. Le confort paraissait plutôt rudimentaire. Quelle est votre position par rapport aux conditions de séjour?
On avait donc des tapis de sol et des sacs de couchage. Et on revenait juste pour le soir dormir là. Donc voilà, c'était assez
rudimentaire.
Voilà.
Juliette, vous vous attendiez à un hébergement de ce type-là?
En fait, moi, j'ai eu la chance d'aller dans une famille. On n'était que 4 sur les 300. Du coup, moi, j'avais un peu tout le confort que eux, ils n'avaient pas.
Très bien.
Donc, ouais, c'était vraiment sympa pour nous, puisqu'on a pu faire connaissance avec la famille. En plus, je parle pas du tout espagnol, donc j'ai dû apprendre un peu. Et puis, c'est vrai que le matin, comme on savait qu'ils n'avaient pas un bon petit déjeuner, on leur ramenait quelques petites choses à manger, parce que bon, nous, on avait tout, alors c'était pas sympa quand même.
Ah, il y avait deux poids, deux mesures, là. Lorsque l'on fait un voyage comme ceci, j'aurais pu dire un pèlerinage, on est d'accord pour faire des sacrifices. Est-ce que vous pensez que ces conditions d'accueil difficiles parfois, avec les aléas du déplacement, du nombre, peut-être des petits soucis d'organisation, est-ce que vous avez vécu cela comme effectivement la participation à un pèlerinage et l'acceptation de quelques sacrifices, peut-être Clément ?
Bah oui, il y avait beaucoup de moments difficiles, mais comme on était en groupe, on a surmonté ces épreuves et c'était pas si difficile. Comme un prêtre disait là-bas, c'est dans les moments difficiles qu'on accepte mieux Dieu, on est plus en phase pour prier.
Mmh. Alors justement, vous avez dit il y a quelques minutes, dans le déroulement de la journée, il y avait au départ les laudes et puis après la catéchèse. Il faudrait nous expliquer que sont les laudes, comment ça se déroule, et puis la même chose sur la catéchèse. Qui est-ce qui veut expliquer ce que sont les laudes ?
C'est
Jean-Baptiste.
Les laudes, ce sont une prière du matin que plein de personnes font autour du monde.
Mmh.
Et voilà. Donc c'est la première prière de la journée. Ensuite, les catéchèses. Donc c'était sur un thème différent à chaque fois. Donc toujours basé sur le thème de départ des JMJ, enraciné et fondé en Christ, affermi dans la foi. Et donc ensuite, on avait des questions qui nous avaient été posées pour réfléchir en groupe.
Donc tout ça, c'était bien préparé et bien encadré alors.
Voilà.
Alors quelques exemples de questions, si vous avez des souvenirs sur ces questions qui vous étaient posées, qui suscitaient la réflexion ensuite, j'imagine.
Alors Une, c'était « Avez-vous l'impression de vivre dans un temps de rupture ?»« Comment je me situe par rapport à la déchristianisation ?»« Et comment puis-je vivre une foi personnelle dans des grands rassemblements ?»
D'accord, donc des questions presque d'actualité et puis des questions profondes.
Voilà, assez personnelles.
Et alors, les échanges s'effectuaient de quelle façon puisque vous étiez 306 au départ, les échanges ne doivent pas être faciles à 306. Juliette ?
En fait, on faisait des petits groupes entre 5 et 10, et puis on se répartissait un peu dans les églises. Et du coup, on pouvait échanger plus facilement et puis confronter nos idées aussi.
Mmh. Et ces échanges vous ont permis justement de progresser par rapport à ce questionnement profond ?
Oui, parce que ça fait toujours du bien d'avoir aussi un autre avis que le sien et de pouvoir voir comment les autres voient les choses aussi.
Ouais. Donc les laudes, la catéchèse avec ces questions, ces échanges par petits groupes, y avait-il d'autres moments forts pendant ces JMJ dans le déroulement des journées ?
Bah, on avait les célébrations tous les jours, donc la messe,
mmh.
Et donc c'était un moment fort puisqu'on pouvait on se retrouvait tous, donc c'était soit le soir, soit le matin pour Madrid. Et donc, on pouvait communier tous les jours.
Ouais. Et quand vous dites on avait l'occasion de tous se retrouver, donc c'était tous les Lorrains, les participants du diocèse de Nancy-Toul. Et il y avait aussi des échanges avec des autres Français ou étrangers.
Dans Avila même et surtout à Madrid, on a beaucoup vu de Français, mais même des personnes étrangères. Et souvent, les questions qui revenaient souvent... D'où viens-tu? T'es avec quel groupe? Voilà.
Alors, c'était donc l'occasion de rencontre. Est-ce que de ce pèlerinage, de ce voyage, vous avez gardé des contacts nouveaux, des rencontres que vous avez faites et qui vous ont permis de nouer des liens, les uns et les autres, Jean-Baptiste peut-être?
Alors, on a beaucoup discuté avec des gens dans la rue comme ça, mais on n'a pas vraiment gardé, enfin moi j'ai pas vraiment gardé contact. C'était juste voilà sur les moments on a discuté voilà, c'était assez convivial.
Juliette, tu as gardé des contacts?
Oui, mais avec des gens qui sont partis de Nancy avec nous, quoi.
Ouais. Eh bien,
Même.
effectivement, sur l'ensemble du diocèse, 300 personnes environ, vous ne vous connaissiez pas
Oui.
avant de partir et vous vous connaissez mieux depuis avec certains.
Oui, voilà. Même des gens que je connaissais parfois avant, mais à qui je parlais pas forcément, bah là par contre, maintenant, on se parle beaucoup plus.
Bien, et Clément?
Moi, j'ai gardé des contacts du groupe quand on est partis ensemble, mais aussi des Espagnols, parce qu'on avait des volontaires qui nous encadraient pendant la semaine à Avila et aussi à Madrid. Et les volontaires d'Avila étaient vraiment proches de nous. C'était des personnes jeunes, ils avaient entre 16 et 20 ans. Et on a gardé, moi j'ai gardé des contacts sur Facebook, MSN, ils ont la même chose, donc on a gardé contact.
D'accord, ça permet d'agrandir son cercle d'amis. Au niveau des activités ou des temps qui vous étaient préparés, j'ai entendu parler du sacrement de réconciliation. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi consiste ce temps fort au niveau du sacrement de réconciliation? C'est Jean-Baptiste.
C'était à Avila notamment, après les catéchèses et le temps de réflexion, il nous était proposé donc soit un temps de prière personnelle et de catéchèse et de sacrement de réconciliation, soit un temps libre avec visite de la ville ou autre chose.
Alors moi j'ai vu quelques photos. On voit sur ces photos pour le sacrement de réconciliation des petits stands ou des endroits intimes en quelque sorte qui étaient tous alignés de couleur blanche. Quand on voit la photo, il y a un sentiment de recueillement et d'apaisement. Je ne sais pas, vous l'avez vécu comme ça?
Alors ça, c'était plutôt à Madrid, où il y avait une allée avec plein de prêtres disponibles pour se confesser. Donc ici, on n'a pas pu trop y aller puisque nos journées étaient assez chargées. Mais on a pu se confesser avec les prêtres qui sont venus du diocèse.
Très bien. Juliette, vous avez été surpris par cette organisation, par exemple les confessions qui étaient possibles, le sacrement de réconciliation. Vous aviez des informations là-dessus? Vous attendiez à trouver cette organisation-là?
Non, pas vraiment. Enfin, déjà, au départ, on avait un prêtre dans chaque bus. Non, je m'attendais pas vraiment à ça, en fait. C'est vrai qu'on était assez bien encadrés de ce côté-là, et dès qu'on voulait parler à quelqu'un, on pouvait. Ça, c'était vraiment bien, je pense.
Ce que je vous propose, on va faire une petite pause musicale d'actualité par rapport au GMJ. On va écouter l'hymne des GMJ 2011, Firmes en la fe.
Siempre a él, gloria, siempre a él. contigo, nuestro Señor, haznos firmes en ti.
De retour des JMJ, c'est le thème de cette émission, le Forum des Jeunes. Juliette, Jean-Baptiste et puis Clément sont avec nous pour témoigner puisqu'ils ont participé à ce pèlerinage. Participé aussi à ce pèlerinage, Monseigneur Jean-Louis Papin, l'évêque de notre diocèse de Nancy-Toul. Est-ce que vous avez eu l'occasion de le rencontrer? Est-ce qu'il était présent, proche de vous? Comment ça s'est passé avec l'évêque?
Oui, il était très présent. Alors déjà, il est parti avec nous de Nancy et il a fait tout le trajet en bus avec nous. Donc il a dormi dans le bus aussi. Et puis après, sur place, il dormait pas au même endroit quand même. Il dormait avec les autres évêques, mais il nous rejoignait tous les jours. Et quand il voyait qu'on avait des soucis d'organisation ou qu'on avait un peu de mal, il prenait toujours de nos nouvelles. Il était très présent.
Alors, vous l'avez trouvé présent, proche. Est-ce que vous l'avez trouvé actif également par rapport à sa participation? Vous parliez tout à l'heure des catéchèses, des célébrations. Est-ce qu'il a pris part à ces activités-là?
Bah, actif, il a participé à beaucoup de catéchèses, donc il a beaucoup parlé. Et il y a un jour, je me souviens, à Madrid, où on n'avait plus de place dans une église pour suivre la messe et la catéchèse. Et donc, il a pris l'initiative de faire la catéchèse dans un parc à Madrid. Et il a fait la messe dans un parc.
Et lors des catéchèses, pour vous, c'est pas commun, c'est pas banal d'avoir des explications de la part de l'évêque. Quel est le message qu'il vous a transmis? Ou est-ce que vous retenez, qu'est-ce que vous retenez du message qu'il a apporté? Et de cette proximité?
Ben, c'est vrai que tous les jours, comme ça, on le voit pas souvent. Donc c'est vrai qu'il voulait se montrer plus proche.
En tout cas, il a joué ce rôle-là de proximité. Et le message qu'il a passé était un message que vous avez entendu et qui vous a marqué. Alors, il y a un deuxième personnage important qui était présent au JMJ, bien sûr, le pape Benoît XVI, dont on a beaucoup parlé dans les médias. Même question, là aussi, vous l'avez vu, vous l'avez senti proche? Juliette, toujours?
Moi, je n'ai pas eu l'occasion de le voir directement, puisque, en fait, on l'a attendu une après-midi, mais il était censé passer là où on était, mais finalement, ça ne s'est pas fait. Donc, ce n'est pas grave, en fait, ça m'a pas gâché non plus les JMJ, mais c'est vrai que sur le coup, on était un peu déçus, mais c'est pas grave.
Néanmoins, par exemple, à la veillée du samedi soir, vous étiez présent, vous avez entendu son message, vous avez vu peut-être sur des écrans géants.
Oui.
Et effectivement, le pape s'est adressé devant une foule de plus de 2 millions de personnes, je crois. Donc, c'est pas évident qu'il puisse être proche de chacun, quoi.
Oui, c'est sûr que... Non, c'est pas possible, même. Mais oui, on a tous bien entendu. Et puis, c'est vrai qu'il essayait de parler dans les langues. Il a parlé en français, en espagnol, en anglais. Donc, c'est vrai qu'en allemand aussi. Donc, je pense que déjà par là, c'était une façon d'être plus proche de chacun. Essayer de faire un effort sur la langue, je trouve que c'est quand même bien.
Et par rapport au message qu'il vous a donné en français, quelle était la teneur de ce message? Est-ce que vous avez gardé un souvenir du message qu'il a voulu vous faire passer?
Il nous a dit en fait que nous, on était la jeunesse, on était l'avenir de la chrétienté dans le monde. Donc ça nous a beaucoup touchés. Tout le monde était joyeux d'entendre le pape, de le voir.
Et en français, il nous a dit « N'ayez pas peur d'être catholique, d'en témoigner toujours autour de vous avec simplicité et sincérité. Le Christ lui-même vous envoie pour être des témoins courageux et sans complexe, authentiques et crédibles. »
Et ce message, est-ce que vous arrivez à tenir ce rôle-là?
Voilà, donc moi, d'après ça, j'ai moins peur d'affirmer, par exemple, au lycée ou autre part, que je suis chrétien, que je crois et que je vais à la messe tous les dimanches.
Ouais, le message est le même peut-être pour Clément?
Oui, pareil que Jean-Baptiste. Ouais.
Le fait d'avoir participé à ces JMJ, d'être quelques-uns parmi une foule innombrable de chrétiens, ça vous aide aujourd'hui à dire votre foi?
Oui, de voir qu'on n'est pas seul, de voir que tous les jeunes, qu'on était beaucoup de jeunes du monde à être chrétiens, vivre la même chose tous les jours, ça apporte quelque chose et ça nous aide dans nos vies de chrétiens.
Un réconfort en quelque sorte.
Oui.
Moi j'avais noté, parce que le slogan des JMJ cette année, c'était enraciné et fondé en Christ, affermi dans la foi. J'avais cru noter une contradiction entre ce slogan où on trouve les termes enraciné, fondé en Christ, entre donc ce slogan et puis votre vie d'adolescent, de jeune adulte qui débute. Cette vie de jeune adulte qui débute, qui est surtout faite de doutes, d'incertitudes, de mobilité. Hein, vous ne savez pas où vous allez étudier, où vous allez travailler. Comment vous percevez cette contradiction entre le slogan de ces JMJ et puis les doutes et les incertitudes de notre monde aujourd'hui? C'est Jean-Baptiste?
Oui, et moi je pense que le pape a voulu nous dire que malgré les aléas de la vie qui sont faits, dont on ne sait pas de quoi ils sont faits, il faut toujours rester enraciné dans quelque chose, et entre autres dans le Christ.
Bien, et alors avant de terminer cette émission et de se quitter, je voudrais quand même vous demander à chacun qu'est-ce que vous garderez comme souvenir de ce séjour, de ces JMJ 2011. Juliette, peut-être, quels sont les temps forts et qu'est-ce qui va te rester?
Je pense que ce qui me restera le plus, c'est vraiment le fait qu'on ait été aussi nombreux au même endroit pour vivre notre foi, en fait, tous ensemble.
Clément?
Un peu le même argument que Juliette, le nombre de personnes, un peu du monde entier, surtout la catéchèse de Monseigneur Léonard, qui a suscité beaucoup de réactions dans la salle de la catéchèse à Madrid.
Alors pourquoi elle a suscité des réactions, cette catéchèse de Monseigneur Léonard?
Donc ce sujet, c'était l'homosexualité, la sexualité et beaucoup d'autres questions qu'on, nous jeunes, se posent en tant que chrétiens.
Ouais.
Et il a beaucoup parlé très sincère, alors que d'autres, exemple prêtres, essayent d'éviter la question, ne disent pas vraiment ce que pense l'Église, alors que lui a vraiment dit ce que disait l'Église, et ce que les textes ont vraiment dit.
Oui, très bien. Et Jean-Baptiste?
Alors moi, j'ai retenu l'unité et le dynamisme de l'Église. Parce que, à mon avis, il n'y a pas beaucoup d'associations qui arrivent, ou de groupes qui arrivent à rassembler plus de 2 millions de personnes du monde entier dans une même ville.
Effectivement, très bien. Bien, il me reste à vous remercier, Juliette, Clément et Jean-Baptiste, pour votre témoignage. Et puis, rendez-vous en 2013 pour les prochaines GMJ à Rio de Janeiro. Voilà, c'était le Forum des Jeunes. Bonsoir à tous.